I'm turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 35.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 35. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et mon titre ce matin, c'est « La biographie d'une âme ». Et dans les versets que nous allons considérer, dans cette dernière partie du chapitre 1 de l'Évangile de Jean, nous avons démarré cette série d'études sur l'Évangile de Jean. Ce passage inclut beaucoup de choses que nous pouvons identifier à cette conversion à Christ. Nous voyons ici les premiers disciples qui répondent à son appel et leurs paroles. Et ce sont des choses merveilleuses. Et nous commençons au verset 35. C'est le troisième jour de ces quatre jours dans ce récit du chapitre 1 au début du ministère de Christ et qui sont rapportés par Jean. L'apôtre Jean ici parle du témoignage de Jean-Baptiste qui témoigne pour Christ et il a parlé du baptême de Christ par Jean-Baptiste. Et à présent, il pointe le doigt à nouveau sur Christ, qui est l'agneau de Dieu. Et le troisième jour de ces quatre jours, au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et voyant Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et nous avons considéré cette grande déclaration la dernière fois. Et les deux disciples, l'un est nommé, c'est André, et l'autre et très probablement l'apôtre Jean lui-même. Il ne se nomme jamais. Quand il désire se référer à lui-même ailleurs dans l'Évangile, il trouve un moyen de le faire sans se nommer. Et s'il y avait eu quelqu'un d'autre, il aurait donné son nom si ce n'était pas lui. Et il y a un indice dans ce passage, et nous en arrivons à ceci au moment voulu, où Jean donne l'heure exacte de cette rencontre. Ainsi, ceci est écrit par un témoin oculaire et il est très probable que l'autre disciple qui n'est pas nommé est Jean lui-même. En verset 37, et les deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, ils suivirent Jésus. Ils ont entendu les paroles de Jean-Baptiste, « Voici, regardez l'agneau de Dieu. » Ceci est comme une instruction pour eux de cesser de suivre Jean et de commencer à suivre Christ, l'agneau de Dieu. Mais ceci nous amène à notre premier point. J'ai un certain nombre de points alors que nous allons considérer ces événements qui reflètent notre propre expérience spirituelle. Et le premier point est celui-ci, cette surprise extraordinaire. Et essayez d'imaginer ceci, c'est probablement la deuxième fois qu'ils entendent cette déclaration extraordinaire, « Voici l'agneau de Dieu ». Quand vous le lisez, oui, vous le comprenez, mais ça aurait été différent pour eux à cette époque-là. Vous voyez ces deux disciples qui sont des Juifs pieux, très certainement, de manière évidente. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël dans le Nouveau Testament qui ne sont pas des croyants sincères. Ils adorent le Seigneur selon leur cérémonie juive. Ils pensent qu'ils sont les serviteurs de Dieu et qu'ils le suivent, mais ils ne réalisent pas leur besoin du Messie, de quelqu'un pour porter leur péché, un sauveur du péché. Et ils ne font pas attention aux prophéties de l'Ancien Testament, ils ne s'attendent pas au Messie, mais certains Juifs sont sérieux et sincères, et parmi eux, les disciples de Jean, parce que Jean se décrit lui-même comme étant celui qui précède Christ, cette voix qui crie dans le désert et qui annonce la venue du Messie, qui est proche, qui va suivre Jean. Et ceci amène leur attention. Ils croient dans ces passages de l'Ancien Testament qui prophétisent la venue du Messie. Ils croient que les sacrifices, les ombres de l'Ancien Testament sont accomplis dans le Messie, celui qui va accomplir toutes ces cérémonies, qui va venir et d'une certaine manière va ôter le péché. Ils croient et comprennent Ce passage d'Ésaïe 53, le serviteur qui va souffrir, qui va venir et souffrir pour les pécheurs, ils comprennent ces choses à moitié. Et quand il dit « Voyez l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, l'agneau qui était immolé et qui était mangé par toute maisonnée au temps de l'exode du peuple hors d'Égypte. » Et si leur maison était sous le sang de cet agneau, alors ils n'étaient pas jugés par la puissance de Dieu, par l'ange qui est venu pour juger les premiers-nés des Égyptiens. C'est là celui qui est prophétisé, celui qui va nous délivrer du péché, l'agneau qui est immolé chaque jour, le matin et le soir, pendant des siècles, dans les rites juifs, d'abord dans le tabernacle, puis dans le temple, pour expier les péchés et comme offrande d'une bonne odeur. Celui qui va venir, qui va porter le péché, qui va offrir sa justice parfaite pour qu'elle nous soit imputée, pour que nous puissions être pardonnés. Voici l'agneau, un homme va accomplir tout ceci. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau d'Ésaïe 53, celui qui sera amené comme un agneau à la boucherie, la même personne qui est le serviteur qui va souffrir, et dans d'autres chapitres d'Ésaïe également, celui qui va souffrir pour les pécheurs, qui va payer le prix pour la rédemption du péché. Et Jean a dit, je suis celui qui le précède, et voici, il dit aux deux disciples, voici l'agneau de Dieu à André, et sans aucun doute, Jean, voici l'agneau de Dieu. Et ils sont émerveillés, ceci est bien au-delà de quelqu'un qui voit une grande célébrité dans la rue, et se dit, oh, c'est cette personne célèbre, cette personne dont j'ai entendu parler tellement souvent, ou peut-être que j'ai vu à la télévision, les gens peuvent être tellement insensés avec ces célébrités en pensant qu'elles sont si importantes. Mais ceci est bien au-delà, l'agneau de Dieu, celui qui est prophétisé dans l'Ancien Testament, qui est symbolisé dans toutes les ombres de l'Ancien Testament, dans l'adoration de l'Ancien Testament. Il n'a rien de particulier. Il porte des vêtements plutôt pauvres, il est un homme, mais il est l'agneau de Dieu qui va accomplir toutes les prophéties et qui sera celui qui va délivrer Israël. Ils avaient leur tête pleine de fausses doctrines que le clergé juif enseignait à cette époque-là. Ils pensaient que quand le Messie allait venir, ils pensaient qu'il serait un Messie national, politique, celui qui allait les délivrer des Romains, quelqu'un qui allait rendre ce pays à nouveau prospère et grand. Il sera noble, important, un grand général militaire peut-être, et un dirigeant politique. Mais il est là, sans garde du corps, sans officier autour de lui, seul, un homme, dans un habit ordinaire, et en plus il est galiléen, et il est habillé comme un galiléen. Et alors ils ont des doutes, comment peut-il être le Messie? Mais Jean leur montre le Messie et Jean a vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de divin. Il a vu le Saint-Esprit descendre dans la forme d'une colombe, descendre sur la tête de Christ à son baptême. Et il se confie dans le témoignage de Jean-Baptiste. Il ne fait pas de miracle, mais il est un prédicateur extraordinaire. Il a une telle puissance et il vit dans le désert et il croit dans ses paroles, dans sa connaissance de la parole de Dieu qui est si profonde et son onction de Dieu. Il est le prédécesseur qui est prophétisé dans l'Ancien Testament. Et il monte, il pointe le doigt vers Jésus de Nazareth qui est le Messie. Ils sont émerveillés, ils ont leurs doutes, mais ils croient dans les paroles de Jean de tout leur cœur. Si seulement nous pouvions imaginer et comprendre ce qu'ils ont pu ressentir, ils n'ont jamais vu quelqu'un de célèbre, oh, non pas que Christ soit célèbre à ce moment-là, mais il est célèbre dans la Bible, dans les prophéties, ils n'ont jamais vu quelqu'un d'important, et maintenant ils voient le Sauveur du monde. Et Jean, très probablement, a dit ces paroles, « Voici l'agneau de Dieu » avec une voix qui tremblait, cet homme puissant et cependant émerveillé, plein d'émotion, en voyant le Messie et l'importance de ce qu'il doit dire. Et ils suivent Christ. Et cette surprise, cet émerveillement, et je voulais commencer avec ceci, parce que c'est de même pour nous, chers amis. Est-ce que vous vous rappelez, ceux qui marchent avec Christ, qui le connaissent, vous avez été convertis à Jésus-Christ, vous avez eu cette grande expérience. Est-ce que vous vous souvenez quand pour la première fois vous avez entendu avec foi et d'une certaine manière le Saint-Esprit a œuvré dans vos cœurs, dans votre esprit, pour que vous puissiez réaliser que ces choses étaient vraies? Est-ce que vous vous souvenez de ce premier moment où pour la première fois vous avez réalisé qu'il y a cette réconciliation avec Dieu qui est possible, qu'il y a le salut, qu'il y a un sauveur qui est venu du ciel, qui est mort à la croix du calvaire pour porter la condamnation de mon péché. Et soudainement, vous avez compris ceci comme si jamais auparavant on n'aviez entendu ces choses, jamais ces choses n'étaient réelles pour vous. Le salut, la vie nouvelle, le pardon de tous mes péchés, marcher avec Dieu, le connaître, avoir cet accès à lui dans la prière, être certain d'aller au ciel, lui appartenir, avoir Christ comme étant mon sauveur. Ces choses étaient toutes nouvelles et extraordinaires. Vous étiez toujours distant, vous n'aviez jamais cru quoi que ce soit auparavant. Vous êtes toujours tenu loin, loin de Dieu, loin de Christ. Jamais vous n'auriez pu vous imaginez comme étant un croyant. Et quelle surprise quand vos yeux ont été ouverts, que vous avez réalisé pour la première fois que ceci est possible, que ceci est vrai et réel. Et vous voyez la surprise. Voici l'agneau de Dieu, le sauveur du monde. Et ils ont regardé à Jésus. Et ils ont regardé et ils ont été amenés à le suivre. Mais ceci reflète d'une certaine manière notre propre expérience. Et ensuite, j'aimerais en arriver au verset 38. Les deux disciples l'ont entendu parler et ils ont suivi Jésus. Au verset 38, Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? » Et c'est là mon deuxième point. Ce motif essentiel, principal, ils avaient besoin d'un motif. « Que cherchez-vous ? » Que voulez-vous ? C'est une question importante qui nous remet en question. Pourquoi est-ce que vous me suivez ? De quoi est-ce que vous voulez parler ? C'est comme si cette question voulait dire « Est-ce que vous cherchez le pardon ? Est-ce que vous cherchez le Messie ? Est-ce que vous êtes simplement intéressé ? Pourquoi ? Que voulez-vous ? Ce qu'il voulait ? C'est de le suivre, d'être ses disciples et d'apprendre de lui. Et leur manière de répondre ceci, c'est de dire « Où demeures-tu ? » C'est une manière de demander une invitation. « Où demeures-tu ? » Et il leur dit « Venez et voyez. » Mais que cherchez-vous ? Cette question vitale, essentielle, vous avez besoin d'un motif, d'un but pour vous approcher de Christ. Oh, vous pouvez venir à nous avec toutes sortes de motifs. Oh, si vous dites « j'aimerais parler à ces chrétiens, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais avoir une explication intellectuelle par rapport à Dieu, par rapport à la foi. » Oh oui, ceci est possible, on va essayer de répondre à vos questions autant que possible. Mais si vous voulez vous approcher de Dieu, vous approcher de Christ, vous devez avoir le bon motif, le bon but, la bonne approche. Vous pouvez vous approcher d'un serviteur de Dieu de toute manière. Mais si vous voulez venir à Dieu, vous devez avoir la bonne approche. Que cherchez-vous ? Approchez-vous de lui uniquement si vous voulez le pardon, si vous voulez la vie, si vous voulez la compréhension, si vous voulez son aide. Faites attention à vos motifs. Je ne veux pas le pardon, le salut, une vie nouvelle. Je ne veux pas le pardon entier, je ne veux pas la grâce, je veux simplement être aidé. Je veux venir à Christ, s'il va m'aider à être une meilleure personne. parce que je ne suis pas si mal, j'ai des bonnes choses en moi, j'ai simplement besoin de 20% d'aide. Alors n'essayez même pas de venir à Christ, parce qu'il n'est approchable que si vous avez réalisé que vous avez besoin de 100% d'aide, si vous avez réalisé que vous avez besoin de son pardon, de cette vie nouvelle, que vous êtes perdu, que vous êtes sous la condamnation de Dieu. Et il est un sauveur, il peut vous pardonner. La question est tellement importante et elle nous remet en question. Que cherchez-vous? Qu'est-ce qui est votre esprit? Parce que vous pouvez uniquement venir à Christ. Et je vais être rapide sur ce deuxième point. Vous pouvez uniquement venir à Christ avec un sens de votre besoin. Et vous pouvez uniquement venir avec humilité, en réalisant que vous êtes indigne, comme quelqu'un qui sait qu'il a besoin de son salut, qui vous est donné librement, et la vie nouvelle, pour qu'il vous mette sur le chemin vers le ciel. Que cherchez-vous? C'est une question importante. Il lui répondit « Rabbi », c'est-à-dire « Maître ». C'était la dernière fois dans ce récit de l'Écriture qu'il l'appelle « Maître ». Après, dans tous les quatre évangiles, il l'appelle « Seigneur », qui est bien mieux. « Maître », c'est simplement par respect, mais après leur rencontre avec Christ, il sera leur Seigneur, celui qui va gouverner leur vie. Où demeures-tu? Et à présent, verset 39, et ceci nous amène à un troisième point, et ce sera celui-ci, cette preuve de la foi. Au verset 39, il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent et virent où ils logeaient. On ne dit pas où était sa demeure. Peut-être auprès d'un croyant. Ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. On ne pouvait pas dire exactement quand c'était, parce que ça peut être la 10e heure selon la manière de calculer des Romains ou des Juifs, et ça peut être soit 10h du matin, soit 4h le soir. Je pense que c'était probablement à 10h le matin. Et ils ont passé toute la journée avec lui, plutôt que 4h l'après-midi, où ils avaient simplement quelques heures le soir. Mais c'est simplement une hypothèse. Parce qu'il était la 10e heure. Vous voyez que c'est le récit d'un témoin oculaire. Ainsi, l'autre disciple est Jean. Verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Voici la preuve de la foi. Lui, en premier, après cette longue rencontre avec Christ, il a trouvé son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce sont des paroles extraordinaires que de dire cela. « Je suis entièrement sûr, dit-il, nous avons trouvé le Messie ». C'est-à-dire le Christ loin de Dieu. Ainsi, il est allé vers son frère Simon-Pierre pour lui annoncer qu'ils ont trouvé le Messie, celui qui a été prophétisé dans le livre de Moïse, dans ces ombres de l'Ancien Testament, celui qui est prophétisé par les prophètes. Oh, si tu pouvais lui parler, tu aurais réalisé ceci, il a une telle autorité, une telle profondeur de connaissance et sa manière de se comporter, il est si plein de bonté, d'amour, si profond. Ceci est si extraordinaire. Il a un vêtement très simple de Galiléen. Il est vêtu simplement, ce n'est pas ce que nous attendons. Mais Jean-Baptiste nous a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Nous avons vu que ceci était vrai, mais il est en souci pour son frère Pierre, il est si certain et il n'a jamais eu cette réalisation dans sa vie auparavant. Nous avons trouvé le Messie et parce que ceci est si important pour lui, ils ont trouvé le Sauveur du monde. Alors il doit partager cette bonne nouvelle. C'est là la preuve de la foi. Quand vous trouvez Christ réellement, vous voulez partager cette bonne nouvelle. Quelle tragédie que, après peu de temps, nous tendons à perdre ce souci pour les autres, que les autres doivent connaître cette bonne nouvelle. Mais c'est là l'un des signes de cette nouvelle foi, de cette foi qui est découverte. Cette nouvelle foi en Christ, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire Christ. Et ensuite, j'en arrive à un autre point, au verset 42. Je vais d'abord lire ce verset. Et il l'amena à Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre, ou un rocher. » Oui, ce verset 42, c'est mon quatrième point. Ce nouveau nom, nous ne recevons pas tous un nom nouveau quand nous croyons en Christ, mais nous recevons ce symbole de ce nom nouveau. Il l'a amené à Jésus. Son nouveau nom, sa nouvelle nature, son nouveau caractère qui lui est donné immédiatement et ensuite qui lui est donné plus tard, au fur et à mesure. Quand nous venons à Christ, nous sommes convertis immédiatement, entièrement, et puis nous grandissons dans notre caractère, dans notre compréhension, dans notre profondeur, dans notre communion avec Christ, dans notre utilité pour lui. Il l'a amené à Jésus. Il y a cette déclaration extraordinaire ici. Et Jésus l'ayant regardé. Et en grec, ce terme est fort. Quand Jésus l'a regardé intensément, qu'est-ce que Christ devait savoir par rapport à Pierre qu'il ne savait pas encore? Il est Dieu tout autant qu'homme. Il connaît toutes choses. Oui, mais c'était là une expérience intéressante pour Christ, si je peux le formuler ainsi, parce que Jésus-Christ, le Seigneur, qui connaissait Pierre depuis l'éternité passée, même si Pierre ne savait pas cela, il n'existait pas encore. Mais Jésus-Christ connaissait Pierre et il a mis son affection sur Pierre avant la fondation du monde. Il connaissait toute l'histoire de sa vie. Il savait quelle personne il serait au début, ses faiblesses. Il connaissait ses points forts également. Il savait ce qu'il allait faire de lui. Il savait comment il allait le rendre fort et ferme et solide alors que les années allaient passer. Il savait qu'il allait faire de lui un rocher, non pas le fondement de l'Église chrétienne et le premier pape, comme l'Église de Rome essaye de dire de manière insensée, mais il savait qu'il allait le rendre plus fort et solide que jamais auparavant, qu'il allait lui donner le courage jusqu'à ce qu'il meure martyr. Christ avait aimé Pierre, qui était indigne de cet amour, comme nous-mêmes également, et cependant il l'a aimé avec cette affection si profonde depuis même avant la fondation du monde. Et à présent il le voit pour la première fois de ses yeux humains. Je ne suis pas surpris de lire que Christ allait le regarder de manière intense, parce que c'était une nouvelle expérience, même pour Jésus-Christ, Dieu et homme, que de le voir comme un homme le voit. Mais il l'a regardé intensément, et ce regard était plein d'amour, et ce regard montrait qu'il lui appartenait. Tu es Simon. Simon, ce nom n'avait pas beaucoup de signification. Mais ce terme signifiait « écoute, j'écoute ». Ainsi, si vous aviez en ce temps-là le nom de Simon, ce nom signifiait « j'écoute ». Fils de Jonas, son père. Tu es Simon, fils de Jonas. J'ai l'impression que André n'avait pas présenté Pierre par son nom, mais c'est Christ qui révèle sa connaissance divine quand il annonce son non, tu es Simon, fils de Jonas, mais je pense que c'est ce qui s'est passé, peut-être que j'ai tort. Ainsi, Simon signifie « j'écoute » et fils de Jonas, Jonas signifie « colombe ». Ainsi, c'est un beau nom, mais ce n'est pas un nom qui est plein de courage, parce que la colombe, c'est un oiseau qui est craintif. Mais Christ va dire, tu seras appelé Céphas, c'est un nom araméen. Et la traduction grecque, c'est Pétros. Mais en araméen, en grec, cela signifie la même chose. Ce rocher, cette pierre, quelque chose de ferme, de solide, de fort. Tu seras appelé Céphas. Pierre, fort, une pierre, un rocher. Et Jean dit, c'est-à-dire pierre. Il aura un nouveau caractère. Et quand nous sommes sauvés, le Seigneur nous donne une vie nouvelle, un nouveau caractère. Et ce caractère est approfondi alors que les années passent. Ne soyez jamais conformes au monde, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12. Ne soyez pas conformes à ce monde. Parce que si vous devenez un chrétien mondain, et si ces divertissements du monde dominent votre vie, et cette musique, ces rythmes et toutes ces choses, alors vous devenez quelqu'un qui est mondain et qui est plein de convoitise, d'envie, et vous serez conforme au monde. Et ce caractère qui doit toujours s'approfondir et qui vous est donné par Christ ne peut pas être approfondi. Vous êtes comme un mondain, conforme au monde, et vous développez de plus en plus les caractéristiques du monde, mais restez loin du monde pour que vous puissiez expérimenter ce que Christ a prévu dans votre vie de vous approfondir. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'être un pasteur âgé, parce que vous avez vu beaucoup de personnes dans votre ministère et vous connaissez beaucoup de personnes qui portent le fruit de ce caractère chrétien qui est approfondi dans leur courage, dans leur affection, dans leur capacité, dans leur discernement. Et cette communion avec Christ, cette certitude des doctrines de Christ, leur expérience de ces prières auxquelles le Seigneur répond. Pierre, ceci lui a été donné immédiatement et une autre partie a été développée au fur et à mesure. Et c'est là mon point, ce nouveau caractère. Et ensuite au verset 43, le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée. Et il semble, si nous lisons le texte de la bonne manière, juste avant d'y aller, il rencontre Philippe, une autre personne qui sera son disciple, et il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda. Ainsi, c'était au début, avant son ministère en Galilée. Et Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Et Philippe a trouvé Nathanaël et lui dit « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Mon cinquième point ici, c'est la lumière dans ses paroles. Nous l'avons déjà rencontré, mais à présent, ceci est déclaré. Philippe dit, « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, nous l'avons trouvé. » Également, les prophètes l'ont annoncé, Jésus de Nazareth. Il est le Messie, il est le fils d'un homme, Joseph, mais il est le Messie. Et Philippe le présente ainsi à Nathanaël. C'est un commentaire qui est très important. Comme j'ai déjà dit, la plupart des Juifs ne pensaient pas ainsi en ce temps-là. Ils ne lisaient pas les livres de Moïse en voyant Christ là, dans la loi. Mais Philippe est... Également, Nathanaël était des gens qui lisaient ces livres, les parchemins pour eux. Ils les lisaient en voyant Christ dans ces livres de Moïse. Quand ils ont lu les prophètes, ils voyaient Christ. Ils avaient cette lumière de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous recevons quand nous venons à Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire que de soudainement comprendre les Écritures, de comprendre les doctrines. Cette doctrine de la dépravation de l'homme, de soudainement la voir dans la Bible, c'est là l'enseignement des Écritures, la doctrine de Christ. Oh, vous recevez tant de lumière dès que vous croyez, vous faites tant de découvertes. L'unité de la Bible, Christ est là partout, du début à la fin, il est le grand lien du début à la fin de la parole de Dieu. Philippe et Nathanaël étaient déjà croyants, Ils avaient besoin de Christ, mais ils l'attendaient et ils croyaient en lui. Et vous trouvez ceci ici. Ils ont reçu cette lumière. Et ensuite, Nathanaël, au verset 48, Nathanaël dit « Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth ?» au verset 46. Je ne pense pas qu'il dit quelque chose de négatif par rapport à Nazareth. C'était un endroit peu important. Ce qu'il veut dire ici, c'est « Est-il vrai que Christ vient de Nazareth ? Est-ce que l'Écriture dit ceci ?» Il avait raison, bien sûr, mais il ne savait pas que Jésus de Nazareth n'est pas venu de Nazareth. Il est né à Bethléem, selon l'Écriture, et il n'a pas réalisé ceci. Et Philippe ne semblait pas connaître la réponse à cette question, pas encore. Et il dit simplement « Viens et vois, si seulement tu le vois, alors tous tes doutes vont s'évaporer et tu vas comprendre. » Et au verset 47, Jésus vit venir à lui Nathanaël et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Quand vous voyez la plupart des Israélites, comme je le dis souvent, ils n'attendaient pas le Messie. Ils étaient fidèles au rite, ils étaient très fiers d'être juifs et ils gardaient la loi cérémonielle. Ils pensaient que tout allait bien pour eux spirituellement. Ils ne réalisaient pas leurs péchés, ils ne réalisaient pas leurs besoins du Sauveur, ils étaient hypocrites. Ils ne vivaient pas selon les commandements de Dieu et cependant ils pensaient qu'ils avaient la faveur de Dieu. Et voici un homme, et Christ le savait, même avant qu'il lui parle. Voici un véritable Israélite, un homme sincère, Nathanaël, un croyant sincère, un croyant dans les prophéties qui parle du Messie, qui vit devant Dieu dans la sincérité. Et Jésus de Nazareth le voit et voit ceci. C'est comme s'il disait « Je peux voir que tu es une personne sincère. Tu crois dans les choses que tu lis, tu es humble devant le Seigneur. » Tu es quelqu'un qui se repent sincèrement et qui aspire à éviter le péché, qui s'attend au Messie, qui se confie dans le pardon de Dieu. Et Nathanaël est émerveillé. Il me connaît, il sait que ces choses sont importantes pour moi, que je suis sincère. Ainsi, au verset 48, Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu ? Qui t'a dit ceci ?» Non pas comment, mais d'où vient cette connaissance? Je ne savais pas que les gens parlaient de moi. Est-ce que Philippe t'a déjà parlé de moi? Et ainsi, le Seigneur Jésus va plus loin. Il lui répond, avant que Philippe ne t'appelle, avant que Philippe ne t'amène à moi, je t'ai vu là sous le figuier et tu méditais, tu avait cette méditation personnelle et le parchemin était ouvert, tu lisais les Écritures et tu étais ensuite à genoux pour prier, je t'ai vu. Nathanaël pense, oh, tu sais cela, tu es le Fils de Dieu. Il pense au psaume 2. Nathanaël connaît les Écritures. Le psaume 2 parle du Fils de Dieu, celui qui va racheter Israël, le roi d'Israël. Tu es divin, tu es Dieu, tu es le Fils du Dieu vivant. Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Maître, et c'est la dernière fois que Nathanaël va l'appeler maître. Nathanaël est très probablement la même personne qui est nommée dans les évangiles comme étant Barthélemy. On est presque sûr de cela. « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et c'est là mon dernier point. J'en arrive à ma conclusion bientôt. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » C'est la promesse de voir des grandes choses qui est mon dernier point, mon sixième point. Cette promesse de ces grandes choses qu'ils verront. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose dans ce dernier verset. Au verset 51, il lui dit aussi « en vérité » ou, si vous préférez, « je te l'assure » d'une manière solennelle et sûre, « amen » et « amen » en vérité, la chose la plus importante va être dite. Je vous dis, oui, ça a été dit, à qui ? À vous. C'est au pluriel. Il lui dit au singulier, au début du verset, à Nathanaël, mais ce qu'il dit a été dit également à Philippe et à tous ceux qui étaient là. D'abord à eux, puis à nous, parce que Christ à présent, il passe du singulier au pluriel. En vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert, ce pluriel dans ce verset. Et c'est très important. En vérité, je vous le dis à vous tous, tous ceux qui sont mes enfants, à Philippe, à Nathanaël, à tous ceux qui sont présents et à chacun d'entre nous. Désormais, vous verrez, chacun d'entre nous, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez de plus en plus. Vous avez eu cette grande surprise, cet émerveillement de réaliser qu'il est possible de connaître Dieu. C'est le premier point, que Christ est le Sauveur. Le Saint-Esprit vous a donné le bon motif, la bonne disposition d'esprit. J'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin de cette vie nouvelle. Vous avez cru et vous avez reçu ces preuves de la foi, ou au moins dans le passé. Je dois proclamer l'Évangile à ceux qui sont autour de moi, qui sont mes amis. Cette preuve de la foi, vous avez reçu ce nom nouveau, non pas littéralement, mais cette nouvelle nature. Vous avez reçu la lumière de la parole et vous voyez Christ dans la parole de Dieu et toutes ses doctrines. Et constamment, vous faites ces grandes découvertes et vous avez cette promesse de voir de plus grandes choses que ce qu'ils ont vu. Ils étaient avec Christ, ils ont vu sa connaissance infinie, ils ont vu qu'ils pouvaient même lire les pensées de ceux qui étaient autour de lui, ils ont vu ses miracles, ils l'ont vu aller à la croix du calvaire, ils ont vu ce grand acte de la réconciliation, le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ceci est pris de l'expérience de Jacob, du songe de Jacob. Ils ont vu ce grand acte de la réconciliation. Ils ont vu l'ascension de Christ, Christ ressuscité, puis l'ascension de Christ. Ils ont vu des choses extraordinaires. La plupart d'entre eux sont morts martyrs. Ils sont allés dans la gloire et ils ont vu les choses les plus extraordinaires. De même pour nous, quand nous sommes sauvés, à partir de ce jour-là, nous sommes sur un chemin de découverte et nous recevons tant de réponses à nos prières, tant d'aides et nous voyons tant de choses dans l'Écriture. Nous recevons de plus en plus cette bénédiction, cette assurance et un jour, nous le verrons. Il y a cette promesse que vous, chacun d'entre nous, nous verrons des choses même plus grandes. Et c'est là l'expérience des premiers disciples et comment ceci se reflète dans nos vies.